Bienvenue à tous dans le nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière de vous livrer des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Alors avant de vous parler du sujet du jour, j'ai un service à vous demander. Laissez-nous, s'il vous plaît, un avis 5 étoiles ou un commentaire sur iTunes. C'est vraiment ce qui permet à Droit Devant de se déployer davantage, de valoriser le travail que ce podcast demande, d'aller sans cesse à la rencontre d'invités plus prestigieux et de nouveaux auditeurs. Bref, de faire grandir cette communauté qui, pour certains d'entre vous, sont là depuis le tout début. Aujourd'hui, dans Droit Devant, on parle de négociation de salaire et j'ai le plaisir de recevoir Lucile Quillet. Lucile est l'auteur d'un livre, Prendre le pouvoir sur ma carrière, et d'une chronique régulière sur Welcome to the Jungle. Elle me paraissait l'interlocutrice idéale pour évoquer ces sujets de négociation salariale. Cet épisode nous a donné du fil à retordre puisque Lucile vit à Istanbul. L'enregistrement avait donc lieu à distance et a été interrompu par l'appel à la prière de la mosquée qui se trouve en face de chez elle. Dépaysant, me direz-vous. Mais c'est à ce moment-là que la connexion internet de Lucile a sauté et que nous avons perdu l'intégralité de l'enregistrement. On a donc dû réenregistrer l'épisode. Mais qu'est-ce que ça valait le coup ? Cet épisode est une mine de conseils utiles. Lucile décrypte pour nous les freins qui nous empêchent de parler librement d'argent. Elle revient par exemple sur les syndromes de l'imposteur ou de la bonne élève auxquels nombre d'entre nous font face, ou encore sur le poids de l'éducation reçue qui intervient nécessairement lors des phases de négociation de salaire. Mais pas de fatalité là-dedans, puisque Lucile a pris le temps de nous expliquer comment dépasser ces blocages et prendre conscience de sa propre valeur, avec des exercices concrets qui permettent d'initier une négociation de salaire réussie, et notamment l'exercice du workbook ou encore de la fiche de poste qu'elle nous détaille dans cet épisode. Avec Lucile, nous avons également échangé sur l'importance du timing et des éléments de langage à utiliser pour mener une négociation réussie. Enfin, Lucile nous explique pourquoi il est valorisant d'initier régulièrement des négociations de salaire avec son employeur. Et elle rappelle aussi le pouvoir du silence et la vertu du temps qui passe à intégrer dans cet exercice. Je vous laisse écouter cet épisode et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lucile et bienvenue sur Droit Devant.
Bonjour Marie-Laure, merci de m'avoir invitée.
Merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation. Tu me paraissais être l'interlocutrice toute désignée pour parler de négociation de salaire. Je sais que tu t'es beaucoup penchée sur le sujet, notamment au travers ton livre « Libre de prendre le pouvoir sur ma carrière » qui est sorti l'année dernière, je crois.
Exactement.
Voilà, et dans ce livre, eh bien, tu expliques qu'il faut que chaque femme soit en réalité sa propre coach et tu insistes dans ton analyse sur le syndrome de la bonne élève qui fait d'après toi beaucoup de dégâts. Et c'était très intéressant ce chapitre où tu parles de cette différence entre l'école où finalement c'est le monde où la bonne élève va triompher et puis le monde de l'entreprise où on est à mille lieues de cette consécration et tout au contraire, si la femme attend son heure de gloire, eh bien, elle va être probablement condamnée à attendre indéfiniment parce que personne ne viendra malheureusement naturellement la récompenser ou en tout cas, il y a beaucoup moins de chances que ça se produise.
Exactement.
C'est vraiment très ancré ce que tu soulignes. Les femmes ont du mal à parler d'argent, à se mettre en avant. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où viennent ces freins d'abord, selon toi, et puis comment faire en sorte de les dépasser ?
En effet, c'est un grand sujet et en fait qui se retrouve à plein d'autres endroits de la carrière. C'est le sujet de l'éducation qu'on a reçue, qui n'est donc pas tout à fait la même que celle qu'ont reçue les garçons. Parler d'argent pour les femmes, c'est tabou. Parce que l'argent est un attribut de virilité et de pouvoir qui, du coup, leur est plus ou moins interdit. Cette éducation, elle nous incite aussi à s'estimer si on est validé par le regard des autres. On va chercher à être apprécié des autres très souvent pour avoir confiance en soi. On est aussi éduqué dans cette idée qu'il faut rester sage, ne pas déranger, rester à sa place. Et donc, ce qui se traduit aussi par une peur d'être jugée qu'ont beaucoup de femmes, notamment au moment de demander plus, parce qu'on a peur qu'on nous dise « Ah, mais tu es quelqu'un de vénal qui travaille pour l'argent, je ne pensais pas ça de toi ». Il y a malheureusement des chefs qui disent ça, sauf que bah, tout le monde travaille en partie pour l'argent, y compris eux, donc en réalité, il n'y a aucune raison de s'excuser. Cette éducation, elle se traduit notamment donc, dans le syndrome de la bonne élève, donc, c'est-à-dire que penser que si je travaille bien, je serai naturellement récompensée, et qu'on est dans une logique de méritocratie. Donc ça, ça marche à l'école, c'est pour ça que d'ailleurs que les filles performent très bien à l'école. Mais après, une fois qu'on arrive dans la vie professionnelle, ça nous pénalise parce que dans la vie professionnelle, il y a d'autres matières qui entrent en jeu, notamment l'autopromotion, le sens politique et puis le fait d'être son propre commercial et son propre publicitaire. Donc en fait, c'est vrai que quand on reste dans ce rapport scolaire, on ne comprend pas que dans la vie professionnelle, on passe en réalité plus dans la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que j'ai mes compétences qui valent quelque chose, que je vends à l'entreprise qui a un besoin. On est dans un échange, on est dans une réciprocité. Et c'est à moi de valoriser mon offre et de déclarer ce que je vaux, d'annoncer la couleur, quoi.
Non, c'est très vrai ce que tu dis. Et d'ailleurs, j'ai interviewé Corinne Hirsch, qui est à la tête du laboratoire de l'égalité, et qui me disait, en fait, si j'avais su avant le pouvoir des réseaux, et à quel point c'est important de cultiver son réseau, c'est un peu ce que tu parlais quand tu disais, il y a tout un aspect aussi politique, il n'y a pas que les notes, en réalité, le monde de l'entreprise, c'est cultiver son réseau. Et bon, la conclusion de tout ça, c'était qu'elle me disait, j'aurais perdu beaucoup moins de temps, et ma carrière aurait probablement avancé plus rapidement si j'avais perçu plus tôt le pouvoir des réseaux. Donc, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on sort du système scolaire de méritocratie pour plonger dans le milieu de l'entreprise et que, où les critères d'appréciation sont très différents.
Tout à fait. Puis, en fait, quand tu restes dans ce rapport de la bonne élève, tu comptes sur le fait que ta légitimité va naître de ton bon travail et que la reconnaissance des autres va arriver naturellement. Sauf qu'en fait, non, la légitimité, c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui sont mauvais et qui sont incompétents, qui paraissent quand même pour être des gens légitimes ou qui ont une certaine stature, parce qu'en fait, s'ils sont pas bons au niveau de leur travail et donc s'ils ont pas de mérite particulier, ils sont très bons en ce qui concerne toutes les dimensions de communication, de faire savoir plus que du faire en lui-même. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a aussi un autre problème que rencontrent beaucoup de femmes, c'est le syndrome de l'imposteur, où en fait, elles pensent qu'il faut avoir tout bon, avoir 20 sur 20, avoir 100% des compétences pour mériter leur place ou mériter une augmentation. Ça, c'est un peu typique, je trouve, de ce que moi, j'ai observé en interviewant beaucoup de femmes, c'est qu'elles cherchent à être trop vertueuses, en fait. Elles veulent surtout pas arnaquer les autres ou quoi que ce soit. Donc, pareil, au moment de demander plus d'argent, elles vont se dire « Non, mais je le mérite pas vraiment. » Alors que, en général, les hommes, eux, tentent. Et si ça passe, tant mieux pour eux. Si ça passe pas, ils perdent pas grand-chose pour autant.
C'est vrai qu'il y a ce réflexe très ancré qui consiste à avoir ce fantasme selon lequel, quand une femme parle d'argent, elle est qualifiée, comme tu le disais tout à l'heure, de vénale, enfin de cupide, que sais-je, à croire que, en fait, pour être intègre, il faudrait ne pas avoir de prétention salariale. Donc il y a ce premier cliché contre lequel il faut lutter, et puis le syndrome de l'imposteur dont tu viens de parler aussi, qui consiste à s'hypervaloriser pour se sentir légitime à demander une augmentation. Donc ça, c'est des freins que toi, tu as identifiés dans ta propre expérience et puis au gré de tes rencontres. Et alors, une fois qu'on les a identifiés, ces freins, donc c'est un premier travail qu'on a fait pour essayer de s'en sortir. Je pense qu'après avoir identifié les freins, l'étape numéro 2, c'est un peu de prendre conscience de sa propre valeur, finalement. Et est-ce que tu peux nous donner des pistes pour nous aider à la déterminer, finalement ?
En fait, le syndrome de l'imposteur et ce manque de confiance en soi qu'on a, et ce manque de légitimité, il est à la base de beaucoup de problèmes dans la vie professionnelle des femmes. Donc, et si on veut demander plus d'argent, on n'y arrivera pas si on n'est pas déjà nous-mêmes convaincus qu'on y a le droit et qu'on le mérite. Pour régler, on va dire un peu, enfin du moins commencer à régler ce problème de syndrome de l'imposteur, moi je recommande dans mon livre de faire ce que j'appelle l'exercice du workbook, le livre de carrière. Le workbook, c'est en fait le fait de prendre un cahier, bon, vous pouvez aussi le faire sur l'ordinateur si vous préférez, mais de lister toutes nos expériences professionnelles avec à chaque fois les missions qui nous ont été données, nos responsabilités, nos résultats, ce qu'on en a retenu, ce qui nous a déplu, ce qui nous a plu. Et en fait, cet exercice, il va permettre de sortir d'une interprétation subjective de notre parcours qui est trop négative. Quand je me dis non, mais j'ai rien fait d'exceptionnel, ou oh, je suis pas vraiment compétente, j'ai pas eu tant d'expérience professionnelle que ça, par exemple, je sors de cette interprétation subjective pour rentrer plus dans un bilan factuel objectif. Parce que quand je vais lister tous ces points selon les expériences professionnelles, je vais essayer d'utiliser des éléments factuels, des chiffres, des résultats, des choses qui en fait ne sont pas du domaine de l'interprétation. Et cet exercice, il est intéressant pour plein d'autres de moments aussi de la vie professionnelle, notamment quand on est tenté pour faire une reconversion. Et il va me permettre d'avoir un regard plus objectif. Moi, je dis que c'est un peu comme regarder un vieil album photo. On prend du recul, on est souvent fier du chemin parcouru et du coup, on se dit qu'on mérite après tout d'avoir plus d'exigences et plus de prétentions salariales. Ça, c'est un exercice global. Après, la première étape à faire aussi pour déterminer sa valeur, c'est déjà de la déterminer soi-même. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui, en fait, se reposent sur leur entreprise, sur les RH ou sur leurs clients pour déterminer combien vaut leur travail. Moi, je dis toujours méfiance parce que quand on vous donne une petite prime annuelle, c'est un peu comme un cookie. On vous donne un gentil biscuit au lieu de vous donner la grosse part du gâteau que vous méritez. Donc, déterminer soi-même sa valeur, comment est-ce qu'on fait ? Pour ça, il y a plusieurs indicateurs. Vous pouvez déjà aller voir avec des cabinets de recrutement à combien est-ce que votre profil peut être estimé. Vous pouvez aussi candidater à d'autres offres d'emploi pour voir ce qu'on vous propose.
Donc toi, tu recommandes, une de tes pistes de recommandation, c'est de pas forcément rester, d'être vraiment proactif en tout cas, et même quand on se sent bien dans un poste finalement, pour mieux préparer ces réévaluations de salaire, ces renégociations de salaire, ne pas hésiter à être un peu à l'écoute du marché, quitte à passer une tête, enfin, ou à entamer un processus auprès d'un cabinet de recrutement.
On peut passer même faire un processus d'entretien d'embauche, de candidature, même pour un poste qui ne nous intéresse pas vraiment. Alors, ça peut demander du temps. Parfois, on n'a pas forcément ce temps-là, mais c'est quand même un exercice intéressant à faire parce que non seulement ça nous entraîne à parler de soi, à nous présenter à l'oral, et ça dédramatise aussi l'exercice des entretiens d'embauche. Ça peut nous servir pour plus tard. Et aussi, ça nous permet de voir à combien est-ce qu'on est évalué sur notre marché. Donc ça, c'est un premier indicateur. Après, il y a aussi des barèmes de secteur professionnel qui permettent d'estimer un petit peu comment est-ce qu'on se situe, si on est plutôt en dessous ou au-dessus. Un autre indicateur intéressant, c'est nos collègues. Alors ça reste encore très tabou de parler d'argent et surtout de nos salaires avec les collègues. Ça, c'est dû un peu à une culture de l'omerta qui règne dans les entreprises sur le manque de transparence des salaires. Ça fait faire des économies, les gens n'osent pas en parler entre eux, c'est du domaine de l'information confidentielle, sauf qu'au final, ça arrange beaucoup l'employeur, un peu moins les salariés. On peut très bien approcher un collègue en lui expliquant notre démarche. Si on s'attend à ce qu'il soit ouvert et ce qu'il nous confie cette information confidentielle, il faut aussi mettre un peu de soi. Donc lui dire, voilà, je me pose des questions sur mon niveau de salaire. Est-ce que tu pourrais m'éclairer ? On peut lui demander une fourchette s'il n'ose pas dire son salaire précis. On peut aussi lui dire, nous, combien est-ce qu'on touche ? Et s'il estime que c'est insuffisant ou si c'est plutôt suffisant. Après, il y a un autre indicateur qui est très important, encore une fois, dans plein d'autres situations, c'est la fiche de poste. La fiche de poste, c'est le document qu'on est censé vous remettre, malheureusement c'est pas toujours le cas, qui en fait va être la carte d'identité de votre poste, avec donc votre charge horaire, votre niveau de rémunération, les missions et responsabilités afférentes à votre poste. Cette fiche de poste, en fait, elle permet d'avoir une photographie précise de votre travail, et ce qui fait qu'en fait, dès que vous faites plus en termes horaires ou en termes de missions de responsabilité, ça veut dire que vous pouvez demander plus. Donc ça, c'est aussi un outil intéressant. Après, on n'est pas forcément obligé d'avoir fait plus pour demander plus. Il existe en fait deux types de demandes de revalorisation de salaire. Il y a un, le rattrapage, quand j'ai fait plus que ma fiche de poste mais que mon salaire n'a pas suivi. Ça, on se dit que c'est plus facile à justifier. Le problème, c'est que ce qu'on fait est souvent considéré comme acquis de toute façon par l'entreprise. Donc si on vous dit « ben non, on ne peut pas rattraper ton salaire », il y a de bonnes chances pour que vous n'arrêtiez pas de faire cette charge de travail supplémentaire. Alors, vous pouvez le faire, mais c'est vrai que parfois, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. C'est pour ça que moi, je recommande plus d'essayer de miser sur le deuxième type de demande, qui est la promesse. À savoir, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de plus m'investir, d'apporter de meilleurs résultats, mais pour maintenir cette motivation et m'entraîner dans ce cercle vertueux, j'ai besoin de gagner plus d'argent. Et de toute façon, en général, il faut toujours motiver sa demande par un bénéfice présenté à l'entreprise. Ça ne peut pas être bénéfique pour moi. Voilà.
Non, mais j'aime bien la méthode de la fiche de poste parce que c'est quelque chose qui me parle sur le plan juridique. Donc, c'est vrai que bon, ça suppose d'en avoir une. Hein, mais une fois qu'on la confronte à la réalité des missions qu'on mène au quotidien, ça permet quand même parfois de prendre la conscience du décalage entre ce qu'on fait, ce qu'on devrait faire et ce qu'on... Voilà. Mais après, il y a ça et puis il y a aussi le fait de ne pas faire davantage que ce qui est indiqué sur sa fiche de poste, mais néanmoins de le faire extrêmement bien et de surperformer dans la réalisation de ses missions, sans pour autant sortir du périmètre strict des missions qu'on nous a confiées, pour autant de le faire avec une grande agilité et une grande...
C'est-à-dire qu'en fait, on progresse chaque année, même si on n'est pas dans une surperformance. C'est pour ça que souvent, on se dit « Non, mais je vais être mal perçue si je demande plus », alors qu'en fait, c'est plutôt le contraire. C'est très valorisant de demander plus parce que de 1, vous vous inscrivez dans la logique de croissance de l'entreprise, et de 2, vous montrez surtout que vous n'êtes pas un élément stagnant.
C'est vrai qu'il y a cette image et ce truc un peu psychologique qu'on peut véhiculer qui consisterait à laisser penser que parce qu'on ne renégocie pas son salaire, eh bien en fait, on se satisfait de ce que l'on a. En partie, le doute commence à s'installer un peu parce que finalement, on ne croit pas tellement dans ses qualifications, dans son expertise. Et donc, peut-être parce que finalement, cette expertise n'existe pas. Enfin, tu vois, donc il y a tout ce process ensuite qu'on laisse percevoir.
En fait, et puis quand ça dure longtemps, je pense malgré nous, c'est comme si on se désignait un peu comme le planqué du service, quoi. Ah bah, elle est là, elle demande pas plus, elle est bien dans son coin, elle veut surtout pas attirer l'attention sur elle, comme si en fait, on méritait vraiment pas plus et limite on méritait plus du tout d'être là, quoi. Faut toujours s'inscrire dans cette logique de progression, c'est complètement normal et en plus, on montre à l'employeur qu'on a confiance en nous, qu'on sait ce qu'on vaut. Et encore une fois, on est notre propre commercial, donc on va être ce qu'on va déclarer aux autres, plutôt que d'attendre que ce soit eux qui s'en rendent compte, parce que là, on retombe dans le syndrome de la bonne élève, on va attendre très longtemps, parfois, avant d'être reconnu à notre juste valeur.
Alors donc, j'ai bien compris, je pense que les freins que tu nous as décrits sont bien clairs sur les croyances limitantes qu'on peut se mettre pour, qui nous empêchent de parler d'argent. D'initier cette renégociation. On a aussi bien compris les pistes que tu nous as données pour essayer de bien déterminer sa valeur sur le marché parce que finalement, on arrive à concrétiser de manière objective ce que l'on veut et donc à se sentir peut-être plus légitime de mener cette négociation de salaire. Maintenant, une fois qu'on a donc dépassé ses freins, qu'on a pris conscience de sa valeur, on va initier une discussion avec sa hiérarchie, ça va être la prochaine étape. Alors concrètement, comment on fait ? Est-ce que tu as des éléments de langage à nous soumettre ou est-ce que tu peux aussi nous conseiller sur le timing à garder en tête pour mener ce type de discussion ? Quels sont les tuyaux que tu peux nous donner sur ces discussions à initier ?
Alors déjà sur le timing, en fait quelque chose qui est très important dans les démarches quand on veut demander une revalorisation de son salaire, c'est de garder des traces écrites. Il faut prendre beaucoup d'élan. Et il faut garder des traces écrites parce qu'en fait, il vous faudra plusieurs noms avant d'arriver à un oui. Enfin, ça arrive que parfois on nous dise oui du premier coup et tant mieux. Mais c'est vrai que souvent, en fait, on est obligé d'enchaîner des refus avant d'obtenir gain de cause. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours demander plus tout le temps, chaque année, et qu'il faut garder des traces écrites. Donc, c'est pour ça que le bilan, enfin, le moment de l'entretien annuel, c'est un bon moment pour entamer cette conversation parce qu'on sait qu'il va être retranscrit à l'écrit et que ça ne va pas rester des paroles en l'air et que si mon chef me dit « on ne peut pas t'augmenter cette année, mais l'année prochaine, promis bah, », c'est pas voilà ça ne va pas flotter dans les airs. Après, ça n'empêche pas qu'au cours de l'année, moi, je fasse part de mes interrogations et de mon insatisfaction sur mon niveau de salaire à mon chef, que je lui demande un entretien, il faut surtout pas se gêner, en fait, pour parler de ce sujet. C'est normal. Et votre chef, c'est son job de gérer ce genre de demande. Il est payé pour ça. Donc, surtout, n'hésitez pas, vous le faites travailler, vous le rendez utile. Donc, je peux très bien dire à mon chef, voilà, est-ce qu'on peut se voir ? J'aimerais qu'on parle de ma rémunération de salaire. On n'a pas du tout l'obligation de rentrer dans un rapport conflictuel, procédurier ou tendu. On a le droit de dire qu'on pense qu'on vaut plus.
Non, mais alors, je comprends de ce que tu dis qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur de se heurter à un refus parce que ce que tu expliques, c'est qu'il faut plusieurs noms pour parvenir à un oui. Après, je constate aussi que, enfin, j'imagine bien aussi que l'exercice peut s'avérer épuisant d'être confronté sans cesse à quelqu'un qui t'oppose en refus parce que de pas voir ton management bondir d'allégresse à l'idée de t'accorder une augmentation et même à l'inverse de systématiquement refuser ou pas répondre, je pense que enfin si tu veux il y a un phénomène d'usure qui doit à un moment quand même impacter.
Je suis d'accord que c'est nerveusement éprouvant et épuisant parce que c'est un exercice qui génère du stress et de l'anxiété. Est-ce qu'on va me dire oui ? Est-ce qu'on va me dire non ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Est-ce que je vais obtenir gain de cause ? C'est aussi parfois difficile quand on nous dit non, on a l'impression que en fait, l'entreprise nous sous-estime et ça peut entraîner une perte de motivation. Après, le phénomène d'usure, il est plus rare en fait parce que j'ai besoin justement de ces noms. Si on me dit non cette année, c'est pas grave, j'ai bien fait de demander parce que j'ai quand même planté les graines pour qu'on me dise oui plus tard. L'usure, elle arrive si on me dit non en permanence. Et cette usure-là, elle traduit, enfin, ces noms très, très fréquents, ils traduisent peut-être quelque chose d'important, c'est que je ne suis pas au bon endroit. Et ça, pareil, si j'attends 5 ans avant de demander une augmentation de salaire et que je la demande tous les 5 ans, je vais perdre beaucoup, beaucoup d'années avant de me rendre compte qu'en fait, je ne suis pas au bon endroit pour moi, je ne suis pas là où on reconnaît ma valeur. Donc oui, c'est vrai que c'est épuisant de devoir se confronter à des refus. Après, en fait, ça fait partie de l'exercice, ça fait partie du jeu. Et plus on le fait, plus on dédramatise, moins c'est douloureux. Donc, surtout, n'hésitez pas. Il faut vraiment se dire qu'on n'a rien à perdre à le faire. Et c'est vrai que ça peut générer du stress, mais au début, plus on le fait, plus ça va sembler naturel et même plus votre chef, il va être habitué à ce que vous demandiez plus et que ça permet aussi de vous donner une certaine stature, en fait. Donc ça, faut pas avoir peur des conséquences parce qu'il y en a rarement qui peuvent être négatives sur votre parcours.
Et alors, j'ai beaucoup aimé quelque chose que tu expliquais dans un article, mais tu vas nous en parler, sur le fait qu'on était parfois son propre adversaire. C'est-à-dire que on était, mais tu vas l'expliquer mieux que moi, évidemment, mais on était parfois tellement apeuré à l'idée que la conversation tourne court et qu'il faille absolument meubler les silences qu'on en arrivait à présenter immédiatement un plan B, voire un plan C à un employeur et à lui offrir finalement une porte de sortie qu'il ne cherche même pas forcément. Et que du coup, il fallait aussi lutter contre ce réflexe naturel. Mais je vais te laisser nous expliquer ce que tu penses du sujet.
En fait, quand je dis prendre son temps pour négocier, c'est à la fois prendre son temps sur plusieurs années et aussi prendre son temps le jour J. Et ça, je pense que tu fais référence au dernier article que j'ai écrit pour Welcome to the Jungle sur le pouvoir du silence. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez typique. On est gêné par le silence. Et du coup, pour meubler l'espace et puis pour tout de suite évacuer le malaise, en fait, on présente notre plan A, puis tout de suite notre plan B, notre plan C. Ce qui fait qu'on se tire une balle dans le pied et que je peux passer de « oui, j'estime que mon niveau de salaire n'est pas suffisant au vu des résultats que j'ai fournis cette année ». Mais je comprends bien que l'entreprise a eu un moment difficile, donc une prime, ça pourrait me suffire, ou au moins un changement de bureau, ou au moins juste remplacer mon matériel. Voilà. Et ça, en l'espace de 15 secondes, on passe d'une vraie augmentation de salaire à un nouveau tapis de souris. Donc c'est un peu dommage. Et surtout, on a épargné à notre interlocuteur plusieurs rounds d'échanges. On lui a épargné la gêne de nous dire non. Et en fait, on a raté notre négociation. Parce qu'une négociation, c'est un compromis. Donc, ça veut dire qu'il faut forcément que l'autre vous dise non. Il faut forcément que vous disiez non aussi. Et petit à petit, on avance les pions. Donc, ça aussi, un autre conseil pour le jour J. Moi, je conseille toujours, donc, d'arriver avec du factuel, parce que comme ça, tout le monde est d'accord, on parle la même langue, mais aussi de demander trop. Et en fait, il faut toujours estimer, vous, l'augmentation, enfin, le chiffre qui va vous satisfaire. Et en fait, à partir de ce chiffre, tapez toujours trop haut, parce qu'une bonne négociation, c'est un compromis, donc vous allez forcément devoir un petit peu rogner sur vos attention.
Mais alors, est-ce que finalement, c'est pas non plus décrédibilisant d'aller taper trop haut ? C'est un peu l'éternelle question qu'on a quand on mène une négociation, hein, qu'elle soit salariale ou autre, du reste. Quel est ton point de vue sur ce sujet ?
Après, ça dépend aussi des résultats qu'on amène de surperformance ou de la promesse. Encore une fois, si j'arrive avec une promesse, si je dis, bah voilà, moi j'ai envie de développer toute une nouvelle filiale ou une nouvelle offre. Bon, bah, on sait qu'on ne va pas demander 100 euros d'augmentation. Là, ça mérite plus. Après, moi, je pense que demander trop, ça permet aussi de lutter contre l'autocensure. Et sur un malentendu, on pourrait en fait obtenir beaucoup plus.
Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette stratégie ? Parce que tout à l'heure, tu disais, ben, c'est bien d'être à l'écoute du marché, peut-être de rencontrer d'autres recruteurs pour prendre conscience aussi de ce qu'on vaut à l'extérieur. Du coup, si on suit ton raisonnement et qu'on va au bout du process et qu'on se retrouve avec une autre offre, finalement, qu'est-ce que tu penses de cette tentation qui pourrait exister de la montrer, en fait, à son employeur actuel ? Est-ce que ça dessert les intérêts ? Parce que c'est un coup de canif dans le contrat ou ça peut aussi caractériser une perte de confiance, voilà, je suis allée voir ailleurs et je le fais savoir, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut servir les intérêts du salarié qui négocie ou de la salariée qui négocie?
Ben, moi je pense que ça peut vraiment servir ses intérêts et honnêtement j'ai entendu plusieurs fois ce genre de démarche marcher. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça soulève, ce problème de loyauté ? On retombe encore dans le côté bon élève, marié à l'entreprise, qui ne va surtout pas voir ailleurs, dévoué, dédié, tout ce qu'on veut. Tandis qu'en fait, quand on n'est pas du tout obligé d'arriver en disant « je claque la porte, on m'a proposé plus ailleurs, vous m'avez sous-estimé, tant pis pour vous », on n'est pas obligé d'être aussi théâtral, on peut aussi arriver et dire « voilà, j'ai été approché ». Par une autre entreprise qui me propose un poste intéressant, on me propose tel niveau de salaire, j'y réfléchis, est-ce qu'on peut en parler ? C'est pas conflictuel, on est juste honnête et surtout, on rappelle qu'on n'est pas là parce que l'entreprise est sympa ou qu'on est dans une loyauté affective, on est encore dans la loi de l'offre et de la demande dans la vie professionnelle. Mes compétences valent quelque chose, il y a une entreprise qui est prête à débourser plus que vous pour les avoir, qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous avez envie de rallonger ? Parce que moi, je suis aussi bien chez vous et j'aimerais bien rester. Ou est-ce que pour vous, il n'y a pas à donner plus ? Et moi, bah, je vais chez le plus offrant. Je veux dire, personne ne va vous en vouloir. Donc ça, moi, je serais plutôt pour tenter cette stratégie. Après, en effet, il faut avoir l'approche et les formes qui soient correctes, mais qui soient voilà, très, très factuelles, très honnêtes, très transparentes. Il n'y a pas de honte, et encore une fois, c'est valorisant. En fait, c'est une façon de dire à l'entreprise, vous m'avez là, mais en fait, je vaux plus. Et d'autres gens sont prêts à le reconnaître. Donc, moi, je trouve que c'est un très, très bon argument. Et encore une fois, on peut montrer, quand on fait une demande, il faut toujours montrer le bénéfice pour l'entreprise. Donc là, le bénéfice, ça peut aussi être de ne pas perdre un bon élément chez le concurrent. Enfin, pour un bon élément qui partira chez le concurrent. Donc, moi, je trouve que c'est un argument de plus.
Savoir utiliser de manière opportune. OK. Donc, alors, on a bien compris. Donc, le pouvoir du silence. Enfin, ne pas avoir peur du silence, en tout cas. Et puis, la force du temps. C'est-à-dire prendre son temps et savoir y revenir sans se laisser abattre ou sans se laisser démotiver. Et faire de ces discussions des moments pas crispants, pas conflictuels, mais simplement normaux.
C'est une discussion. C'est-à-dire que même quand on dit non une première fois, ça ne veut pas dire que la discussion est terminée. Moi, je peux mettre le pied dans la porte et dire bah, « j'aimerais qu'on y réfléchisse ». Prenons notre temps, reparlons-en dans une, deux semaines et tout. C'est de l'ordre de l'échange, en fait. Il y a pas de... faut sortir, je pense, d'une vision très, très bras de fer de la négociation de salaire et surtout qui est parfois un petit peu teintée d'aigreur. On m'arnaque, on ne me rémunère pas assez, donc j'y vais, je tape du poing sur la table. Mais là, on va vous dire, bah oui, mais en fait, vous n'avez jamais demandé plus. Donc, naturellement, vu qu'on n'est pas dans une logique de méritocratie et de transparence, bah, évidemment, on vous rémunère pas plus. Ce qui peut permettre aussi de prolonger cette conversation si on nous dit non, vu qu'on est dans une négociation, c'est de varier les enchères. C'est-à-dire que si on me dit non pour de l'argent, je peux très bien dire oui, voilà. Si on me dit non pour de l'argent parce qu'il y a des très bonnes raisons économiques derrière, je peux quand même demander meilleur matériel, de l'assistance, un stagiaire, un apprenti.
Une formation.
Ou une formation.
D'accord.
Exactement.
D'accord. Ben écoute, c'est très clair, Lucille. Merci beaucoup pour toutes ces pistes de réflexion que tu nous livres très généreusement et ces bons réflexes que tu nous donnes. Est-ce que tu peux, c'est la question que je pose à mes invités qui sont pour la plupart, même tous, on peut le dire, des spécialistes du monde du travail. Et j'aime avoir leur éclairage et leur vision du monde du travail de demain. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes espoirs ou quelle est ton analyse sur le monde du travail de demain ?
Alors, le monde du travail de demain, je pense qu'il va continuer sa mue dans le sens où on va rechercher à du sens dans nos métiers. On n'est plus du tout dans la logique sacrificielle qu'avaient nos parents. Je fais un travail qui ne me plaît pas, mais qui me fait gagner de l'argent pour après partir en vacances et tout, avoir du plaisir dans des moments beaucoup plus ponctuels. Donc ça, je pense que ça va continuer. Après, j'espère aussi qu'il va se transformer avec plus d'égalité et surtout sortir un petit peu de cette vision très ancienne et très obsolète du monde du travail avec la vie pro d'un côté, la vie perso de l'autre, qui pour moi est très, très proche d'une vision années 60 où en fait quelqu'un pouvait complètement se dédier à sa vie pro parce qu'il y avait quelqu'un qui était tout dédié à gérer sa vie perso. Et pour moi, voilà, quand on parle de conciliation et comme quoi la vie perso ne doit pas déborder sur la vie pro, pour moi, c'est un petit peu une vision de gens privilégiés qui ont quelqu'un, en fait, qui travaille pour eux gratuitement. Donc là, avec le Covid, c'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé des temps de travail, des temps de vie, de la conciliation, des challenges que ça représentait. J'espère que du coup, ce sera plus inclusif, voilà, et que la conciliation, c'est pas un sujet de femme, en fait, c'est un sujet de société. Et qu'on arrêtera de leur laisser gérer tout en disant que voilà, c'est plus ou moins normal. comme si, bon, elles avaient le droit de travailler, mais il ne fallait surtout pas oublier de faire la checklist de la femme au foyer, quoi. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on est encore beaucoup trop dans la valorisation du fait d'être la Wonder Woman qui arrive à tout faire et tout. Et en fait, au lieu de se dire qu'il faut avoir plus d'égalité, au lieu d'en faire un enjeu de performance. Donc, j'espère qu'on ira aussi dans ce chemin-là, un peu plus inclusif et aussi plus équilibré pour tout le monde, et y compris pour les hommes.
Merci beaucoup pour ta vision du monde du travail de demain et pour cet échange précieux et riche de conseils utiles.
Et ben, merci de m'avoir invité.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.